C'est des fractaux dans lesquels il y a toutes les ingrédients qui se sont réunis, qui captent les éléments nutritifs qui viennent par la pluie, par le vent, par la vague, par les embruns, etc., et qui fait plus d'elle-même par elle-même. C'est-à-dire capable, à partir du sol atmosphérique, à partir des minéraux qui sont là, de faire plus d'elle-même par elle-même. Mais c'est toujours pas un ami. Et à un moment donné, ce système se ferme. Et un individu devient deux individus. Pour moi, c'est ça. Et on ne repasse obligatoirement par un. C'est forcément une multiplicité d'éléments chimiques. Alors, je ne sais pas s'il y en a 5 000, 100 000, 200 000, mais ça peut être 200 000, c'est une autre façon de manière différente. Mais ce sont. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il y a une dynamique qui existe, qui fait qu'on capte une énergie, pas forcément sur une énergie, on est capable de transformer cet émetteur, d'utiliser cette énergie pour provoquer des réactions chimiques. Ça, on peut le faire dans une flaque. Ça n'a pas besoin d'un individu. Et l'individu, l'individu n'existe que parce que ce n'est qu'à partir de là qu'on peut penser multiplication et évolution. Et pour moi, le mot important, c'est évolution. Une flaque d'eau, elle ne évoluera pas parce que ça sèche, il y a la vie qui est dedans, c'est pareil. Et si ça se réhydrate, ça peut marcher. Donc on sait, par exemple, faire des nouvelles molécules avec des successions, des hydratations, des hydratations, ça fait. Mais bon, pour moi, le 1, c'est pas une multiplicité de choses. Des eucaryotes. Les eucaryotes, c'est une multiplicité, puisque on considère que les mitochondries sont des parasites, sont des bactéries parasites. Peut-être même que le noyau, c'est une bactérie parasite. Et en fait, c'est une cellule que nous construisons. C'est trois parasites ensemble. C'est les mitochondries, la machine énergétique, le noyau qui porte le système génétique. Et le troisième, c'est la cellule elle-même qui est le milieu de réactivité. Mais un, c'est la bactérie, c'est le micro-organisme. La bactérie, c'est pas un micro, mais un, c'est important.
Moi, je voudrais revenir au rapport à l'arbre dans ces trois œuvres qui nous sont présentées. Parce qu'il y a quelque chose qui me frappe. Moi, quand je pense à l'arbre du jardin, au XVIIIe siècle, l'arbre du jardin, ça fait partie du dessin. Les jardins sont dessinés, les jardins sont là comme la peinture pour tenter d'ordonner tout un foisonnement d'êtres et de les faire tenir dans un espace limité. Donc, l'arbre des jardins, c'est en quelque sorte quelque chose qui est assez intellectuel, assez géométrique, et qui est de l'ordre, au fond, d'une vision très intellectualisée de la nature. Et l'arbre des jardins, d'abord chez Kant, ça fait partie du dessin. Et puis, ce que je vois, là, c'est que le jardin, ça peut être la paresse. Le jardin, c'est tout à fait autre chose, c'est plus cette vision uniforme de la nature, c'est au contraire une autre question, qu'est-ce que c'est que appartenir à un monde et comment les artistes sont en train de réfléchir et même de produire des formes qui pensent notre appartenance à un monde qui est en train de rentrer lui-même dans cet élément très homogène qu'était le jardin. Et je suis très frappé de voir que la pensée thermique ou ce monde très minéral qui nous est présenté, ou le printemps cosmique, sont une sorte d'ouverture des jardins à ce dehors immense qui est en train, soudainement, de soulever les formes d'une autre façon. Et c'est ça qui me frappe dans ces trois représentations. Alors je vais très bref en prendre un autre exemple, qui est Aristote, notre référence. Chez Aristote, il y avait d'un côté les météores, de l'autre côté, les biologies avec les vivants. Il y avait d'un côté les météores qui étaient les flux au-delà de la lune, etc. Et puis il y avait les vivants. Et les vivants, quand est-ce des vivants, il était sublunaire, il était limité, il avait une finalité interne, etc. Et ce qu'on voit très clairement, c'est que le météore et la biologie, c'est une chose. Le cosmos et la vie, c'est la même chose. Et c'est ce qui se ressemble dans ces tableaux-là. C'est soudainement que la vie soit happée par la question du cosmos. Qu'elle soit happée par une extériorité qui est beaucoup plus large que la vie interne en elle-même. Et voilà, donc je voulais dire que je suis très frappé par ces œuvres parce que ce sont pour moi des pensées d'artistes qui interviennent à un certain moment où peut-être on ne peut plus penser la vie comme on l'a pensée depuis Aristote. Et que la question nouvelle, c'est qu'est-ce que ça fait pour la vie d'être dans la conscience.
Et alors on va y arriver, on est arrivé plutôt à propos des classifications du vivant, mais pas d'une chose que j'ai fait. Vous avez choisi un certain nombre de.
Je vais retraverser ces œuvres, mais effectivement, je pense que ces trois œuvres sont frappantes aussi par l'absence de l'homme, et que quand on pense à un dessin, à un jardin dessiné, on pense au cheminement, au point de vue, en fait, à tout ce qui satisfait l'agrément. Des bonheurs. Et là, voilà, la vie elle est incarnée dans le jardin même et on n'est plus dans une vision de spectacle. Ça vient plus tard dans l'exposition, mais c'est vrai qu'elles sont à la fois dépeuplées et à la fois elles montrent la vie en elles-mêmes, ces œuvres-là.
C'est une vision humaine.
Alors, je pense que les choses vont se recouper sans arrêt. Donc effectivement, à rebours des classifications du vivant et métamorphose végétale, avec cette idée, comme Emma vous disait, que l'exposition s'enracinait très fort dans le vénérisme, qui était ce moment d'interrogation intense de la distinction entre les règnes, où les cabinets de curiosité accueillaient des objets dont on doutait de la nature et qui étaient collectionnés en tant que tels comme des objets naturels. Soit minérale, soit végétale, soit animale, qui étaient ces objets qu'on voyait là, dans la salle de Jean Dubuffet. Alors, plusieurs œuvres pour réfléchir à la question de la métamorphose. Donc, je me répète un petit peu hein, pour ceux qui étaient à présent ce matin. Cette œuvre de Giovanni Anselmo, dont le titre indique une datation, 300 millions d'années, qui est ce bloc d'anthracite. Alors voilà, là, l'illustration montre la même œuvre, mais l'autre. On montre une autre version de cette même œuvre. Un bloc d'anthracite avec une ampoule électrique plaquée contre l'anthracite, et cette idée que l'artiste cherche à ressusciter cette matière organique en lui fournissant l'oxygène et la lumière qui vont manquer. Avec aussi ce rappel que cette matière organique, ce fossile, qui nous semble minéral, avec des origines organiques. Donc c'est une œuvre de 69, de cet artiste italien. Ensuite, cette toile ici, dont on avait parlé à gauche, le jardin sombre d'Iftanghi. Donc un paysage surréaliste, donc je qualifiais de marine sous-marine, qui nous montre un monde bruyant, et on sait que les surréalistes se passionnaient pour les insectes qui se camouflaient, l'apparence des feuilles pour ces mollusques. Donc, le jardin sombre à gauche et à droite, une œuvre dont on n'a pas parlé ce matin qui s'appelle Fleur de coquillage, une toile de Max Ernst qui est antérieure donc, au pétale et jardin d'Anne Frankolik et cette grande fresque qu'on a vue par la suite avec une plaque jaune. La fleur de coquillage, c'est lié à des voyages encore de Max Ernst quand il traverse en fait, les Alpes suisses. Est très intéressé par les pierres qui sont chargées par les glaciers et en fait fait une sorte de divagation autour de l'origine de ces pierres. Et ces fleurs de coquillage voilà, sont aussi des réflexions sur ces sortes de petites pierres qui fleurissent. Et donc le titre évidemment est une évocation sexuelle de la part de Max Ernst parce qu'on n'en attend pas moins. Donc voilà, fleur de coquillage, évidemment on peut voir une multitude de sexes qui fleurissent à la surface de la toile, de la même manière que l'orchidée dessinée par Gallet, qu'on a regardé aussi ensemble pour certains botanistes, c'est flagrant, enfin, botaniste à qui j'ai fait la visite, c'est flagrant pour eux de voir un sexe au centre du dessin. faire de coquillage, c'est aussi cette réflexion entre le monde végétal et le monde animal. Ensuite, quelles autres œuvres on avait rassemblées? La Nymphocolie. Donc ce dessin de galet dont je viens de vous parler avec cette orchidée et les trois insectes qui s'apprêtent à la polliniser en imaginant que l'un d'entre eux y arrivera et les autres non. Voilà. Alors là, on n'a pas parlé ce matin de l'objet de gauche, qui est une gravure qui en réalité date des années 1830 et qui vient illustrer un ouvrage de Goethe qui s'appelle Organographie végétale. Donc Goethe, dans les années 1780, accomplit son tour d'Italie et il y a une histoire toujours intéressante. Il est dans un jardin de Palerme et il a une sorte de choc à contempler toute la diversité du jardin. Il a une sorte d'étourdissement devant la diversité du monde végétal. Et à partir de ce moment-là, il va avoir une obsession, c'était de trouver la plante primordiale. Donc là, en laissant cette réflexion sur la graine, la première graine, la première plante, et la plante primordiale, donc évidemment aussi c'est l'idée romantique, aux plantes de revenir à la première plante, à la première langue, quelque chose de primitif. L'illustration qu'on voit n'est pas de Goethe, mais d'un illustrateur français Turpin qui vient apporter cette image à l'essai de Goethe. Qui montre cette plante monstrueuse qui est une sorte de compilation de toutes les formes végétales possibles, de la racine aux feuilles jusqu'à la fleur. Mais si on se rapproche en fait et qu'on analyse différemment cette gravure, ça va être difficile parce que c'est assez minutieux, mais dans la réflexion de Goethe sur la métamorphose des plantes, donc c'est à la fois la métamorphose des plantes, un poème dont on reproduit une partie dans l'anthologie qui accompagne l'exposition, et c'est à la fois un essai botanique où Goethe, partant de cette diversité, tente de remonter le temps pour trouver cette plante originelle et d'avoir une intuition que les fleurs, les pétales des fleurs, en fait, seraient une forme évoluée de plantes primitives et des feuilles. Donc on voit aussi dans cette succession de feuilles une sorte de frise chronologique de l'évolution de la feuille primitive à la fleur au sommet. À droite, donc on a des captures d'écran des moments de ces archives des années 20-30 de cet anglais Frank Persicinis qui était naturaliste et qui réalisait des petits films en time-lapse et en micro-cinématographie qui donnent à voir le monde vivant à un niveau, une échelle cellulaire. Une échelle qui va nourrir les artistes. Et voilà, en fait, voilà ces œuvres pour aborder la question de la frontière entre les règnes et de la métamorphose.
Et là, il y a un point de clivage, car de toute façon, la science contemporaine, pour des raisons historiques complexes, part de présupposer un monde qui est essentiellement abiotique, qui montre dans lequel la vie est un phénomène contingent, inessentiel, accidentel, produit sans aucune forme de finalité, par pur hasard, etc. etc. Alors que au-delà des preuves empiriques qu'on peut avoir, l'idée de ce type-là reste des investissements assez compliqués à faire, sans s'appuyer sur des présupposés théologiques assez forts. Et que, voilà, il y a peut-être une autre manière d'envisager la question qui pense les rapports entre vie et monde de manière plus essentielle et qui donc obligé à reformuler toutes ces questions. Et les trois ouvrages que Hélène nous a décrits, au fond, c'est trois ouvrages qui présupposent cette intimité entre vie et monde, c'est-à-dire d'écrire la vie, que ce soit l'origine ou des étapes progressées, signifie toujours d'écrire les mondes, et parler du monde signifie toujours mettre en scène la vie. Ça n'a aucun sens de parler du monde s'il n'y a pas de vie. Il n'y a pas peut-être d'homme, mais la vie est toujours là. C'est ça le réalité. Et ça, c'est juste pour me rattacher sur. Et sinon, à propos de ces trois ouvrages, juste quelque chose peut-être à peu près à propos de la figure de Turpin et de Goethe. C'est intéressant même de progresser, hein, parce que là, la question de la Hochpflanz, de la plante originaire, ce n'est plus, l'origine ici n'est pas conçue comme un terme de étape la plus simple, la moins complexe, et la celle qui est première originaire, la première chronologique. La Hochpflanz, c'est un peu l'archétype de le paradigme des modèles qui est censé s'actualiser dans n'importe quel individu végétal.